Salut Daniel, Jean-Luc, visiteur médical. Je t'appelle parce que je voulais réagir par rapport à cette émission que je viens d'écouter dans ma voiture là à l'instant. Superbe, je travaille justement sur la Normandie et je rencontre aussi des gens comme ça, des médecins déjà qui sont formidables, milieu médical qui effectivement dans un département comme le Calvados, l'Orne, diminue de plus en plus de patients. Des gens qui sont mal dans leur tête, mal dans leur peau, on en rencontre tous les jours. Cette fille, Emmanuelle, là, elle est formidable. Et on envoie des médecins tous les jours, nous aussi, et qui sont formidables. Voilà, salut.
Allez, bonjour, c'est Jean-Louis de Laval. Je voulais apporter mon soutien moral donc au chômeur qui a téléphoné hier. Et s'il y a des gens qui trouvent que 3000 balles par mois pour vivre, c'est trop, eh bien, ils n'ont qu'à essayer à vivre avec. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que là, vous allez avoir les cadeaux de Noël qui vont arriver dans les grands supermarchés. Vous allez voir des lecteurs de DVD et compagnie à peu près à 100€. Regardez où ils sont fabriqués. Alors après, ne vous étonnez pas si on crée du chômage en France en achetant des trucs pas chers qui viennent de Chine et compagnie et où c'est souvent des gosses qui les fabriquent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.
Salut Daniel, bravo pour ton émission. Je m'appelle Julien, j'ai 14 ans. C'est pas pour ça que je comprends rien à la politique. Et je voudrais dire que Raffarin, je trouve très hypocrite avec ces mesures-là de chômeur en fin de droit. Je parie que dans quelques mois, il va nous annoncer tout content. Et ben on a des chômeurs en moins. C'est normal, ils ont été rayés des fichiers. Allez, salut.
Oui, bonjour, Didier de Toulouse. Ben voilà, j'ai vu une brève à la télé dans vos infos régionales sur un patron, un vigneron dans la région de Bordeaux qui employait des Espagnols qu'il allait chercher lui-même directement, enfin qui faisait venir directement du sud de l'Espagne et qui venait travailler 9 mois sans interruption, 7 jours sur 7, qui payait au SMIG et qui logeait dans des caravanes pourries ou enfin dans des conditions déplorables. Et puis le mec qui était interrogé à la télé, qui avait accepté de répondre, il était assez... assez sympa finalement, tu disais pauvre mec, il se rend même pas compte. Et puis ce qui est quand même vraiment génial, c'est qu'il risque 1 500 € d'amende par type, ça fait quasiment rien, quoi. Ça fait 10 000 balles. Je pense que sur 2 mois il les a largement gagnés de toute façon. Je sais pas si les mecs étaient au black ou pas, mais voilà. Voilà, merci et au revoir.
Salut Catherine, dans le sud-est de la France. Bah écoute Daniel, je suis une fidèle parmi les fidèles, je sais pas, ça fait des années et des années que je t'écoute. Généralement c'est super, je suis d'accord. Bon, là cette fois-ci, je suis pas vraiment d'accord avec l'histoire de Ramadan, Tariq Ramadan, parce que je suis complètement pour ce mouvement altermondialiste à fond la caisse. Mais là, je pense que Tariq Ramadan est quelqu'un qui manipule, est quelqu'un qui se sert même s'il y a des idées qui sont proches des altermondialistes, ça je remets pas du tout en cause, mais je l'ai regardé, je l'ai écouté, il est dangereux, et je pense que l'avenir nous le dira, et ce serait dommage, Mermet, que quelque part ta crédibilité, qui est forte, parce que tu représentes une mouvance qui est tellement intéressante, qui est tellement atypique, je veux dire, sur nos ondes, moi, ça m'emmerderait que tu tombes dans ce piège-là. Bon, Beauvais, le soutien, c'est vrai, attaque moins. Il y a des réticences. Et moi, j'ai des réticences, non seulement parce que je suis juive, c'est pas pour ça, parce que moi, je suis juive, mais pro-palestinienne, donc plutôt dans la mouvance de Warszawski. Donc, mais ça me dérange que toi et que l'émission que tu conduis, que j'apprécie, que tu soutiennes, que tu le soutiennes de cette façon-là, ça me choque. Voilà. Eh bien, je t'embrasse, Daniel, et à très bientôt.
Merci pour ce message, Catherine. Ça me donne l'occasion de rappeler que je ne soutiens absolument pas Tariq Ramadan. J'ai fait une émission, nous avons fait une émission en direct depuis la Villette, depuis le Forum Social Européen, vendredi dernier. J'ai commencé cette émission en direct en rappelant une phrase attribuée à Voltaire, qui est à peu près la suivante. « Je ne partage pas vos opinions, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer ou les exprimer. » Voilà. j'ai commencé comme ça. Je crois que cette précaution, il faut pas l'oublier. Simplement, on a le sujet, le thème de ce débat, car c'était un débat. Il y avait effectivement une représentante d'Attac qui s'est pas du tout laissé faire. C'était quand même qu'il me semblait à moi qu'il y avait à l'égard de Tariq Ramadan une certaine diabolisation que je trouve excessive et une certaine manifestation d'intolérance. Je crois qu'il faut débattre. On est un pays formidable où on peut débattre même violemment si on veut, mais je crois qu'on n'est pas obligé du tout d'interdire ni de stigmatiser quiconque. C'était le but de cette émission. Et si vous l'écoutez, et vous pouvez l'écouter, je vais vous dire comment, vous verrez si je... La part d'irrationnel qu'il y a dans la réflexion de Catherine. Où pouvez-vous l'écouter? Eh bien, sur un site absolument interdit qui est le site pirate qui tous les jours enregistre cette émission. Ça s'appelle LBSJS, ça veut dire là-bas si j'y suis, lbsjs.free.fr. Free, ça c'est comme en anglais, F-R-E-E. lbsjs.free.fr. C'est un site pirate, donc il est absolument interdit de vous y rendre. Mais enfin, si jamais, par hasard, quand même, vous insistez, ben vous pourrez réécouter cette émission et beaucoup d'autres. Voilà. Aujourd'hui, on continue la balade, ou disons la journée, dans la vie d'un médecin, d'une médecin de campagne. C'est un reportage de Claire Otter, sur lequel vous avez réagi sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, Carole de Nantes. Daniel, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais de temps en temps diffuser des messages heureux? Moi, je me souviens de certaines émissions de là-bas, si j'y suis, où il y avait des belles choses qui se racontaient, enfin, de l'amour, des choses, parce que là, on est quand même dans une période terriblement triste, et j'adore cette émission, mais ça commence à me gonfler d'entendre des gens tristes, malheureux, mal dans leur basket. Au secours, un peu de bonheur, s'il te plaît, je sais que tu t'en es capable. Merci, et à bientôt.
J'ai vu passer papa devant ma fenêtre. Et papa vieillit, mais papa quand même. Et j'ai bondi à la fenêtre, je suis folle. Je suis au premier étage, papa n'a pas pu passer devant la fenêtre.
J'avais 3 ans, je suis allée à l'hôpital avec mes parents. Et j'ai adoré l'odeur. Je leur ai dit, je serai docteur quand je serai grande. Et c'est toujours resté. J'ai toujours dit à mes parents, je serai docteur. Dès qu'on me demandait à l'école ce que vous voulez faire, je serai docteur. Respirez bien. Par la bouche, si vous. Respirez bien, la bouche ouverte. Très bien. Toussez. C'est bien. Ça va.
Je pense qu'on va me servir et le mien ensemble. Comme ça, elle est toujours un petit peu avec moi. Je prends son bol au lieu de prendre le mien. Et pour qu'elle soit toujours un peu avec moi. Oui, elle est pas loin. Parce que moi, je la sens dans la maison.
Au départ, la vocation de médecin, c'est parce que j'aimais les gens. J'avais envie de connaître les gens, j'avais envie de découvrir les gens. Et c'est un excellent moyen de faire des tas de rencontres. Puis c'est aussi un moyen de... Je le sais depuis peu, ça. Mais d'arriver dans sa vie à faire des choses dont on est content.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Otter. Là-bas, si j'y suis, un jour dans la vie d'Emmanuel, médecin de campagne en Normandie.
Flight number 2. Arriving from
New York. Il faut repérer à la voix, à ce que nous ont dit les gens, aux quelques questions qu'on a pu poser, qui est le plus urgent, qui on doit voir en premier, qui peut poser effectivement problème. Et des fois, les gens nous disent j'ai mal dans la poitrine, et puis quand on les voit, en fait, c'est un infarctus. Donc c'est vrai qu'il y a des questions à poser pour voir quel est l'ordre de priorité, l'ordre d'urgence. Et en même temps, on est à la campagne. Donc, faut pas non plus faire que des kilomètres, aller à droite, à gauche, revenir sans arrêt en étoile. Parce que le circuit fait quand même plus de 20 km de rayon. Donc, faut faire attention. Et je pense qu'on va quand même compenser par Fernande, parce que je pense que c'est une urgence. Pour elle, elle est en anémie. On sait pas d'où vient l'anémie. Et elle est grande insuffisante cardiaque. Donc, du coup, les coronaires souffrent énormément. Et a priori, elle a mal dans la poitrine. Elle se sent pas bien.
Elle a quel âge, Fernande?
Ah, c'est la question piège. J'avais dit non, je veux que vous deviniez quel âge elle a. Parce qu'à quel âge on peut aimer la vie? On va voir comment elle est. C'est apprendre à regarder les gens. La couleur du visage nous renseigne énormément dans les insuffisants respiratoires. Il y a un teint gris, un teint cireux. Et le teint cireux, c'est vraiment quelque chose qui est pas de bon augure. Donc c'est vrai que c'est important de regarder les gens. On apprend plein de choses en regardant les gens. Un visage asséché. Une attitude. On va dire plus une attitude que le visage, quoi. Il y a une chanson de Brel qui dit « Les gens regardent du bout des yeux et les vieux regardent du bout des yeux », et ça, c'est hyper vrai. Et les vieux, quand vous leur dites certaines choses, vous voyez leur regard qui se voile, qui pense à plein de choses, des souvenirs, tout ça. Mais tout ça, ça apporte plein de renseignements. Vous êtes d'accord? Ça fait partie du travail, de l'écoute aussi. Là, le pauvre petit père, sa dame est morte il n'y a pas très longtemps, et tous les deux, ils étaient hyper amoureux. Donc, le petit monsieur était vraiment pas bien du tout. Là, c'est un monsieur polonais qui est venu suite à la guerre et qui s'est installé là parce qu'il y a eu travail dans les mines. Minerai de fer. Et le fer était acheminé d'ici jusqu'à Caen et au fourneau de Caen. Donc là, on va arriver. D'ailleurs, c'est un petit passage et on va aller chez Fernand voir ce qui se passe. Ah, elle est allongée dans sa chambre. Et que ça va pas. Bonjour Fernande.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh bah non, c'est rien, mais je suis pas vraiment
mauvaise. C'est vrai? Vous faites voir votre couleur. Il n'y a plus du tout de couleur dans les yeux.
Je suis fatiguée.
Fatiguée.
Je mal à mes reins, moi qui n'ai jamais mal. J'ai foiré, je suis obligée de mettre quelque chose sur mon dos dans la maison, et ça me donne froid. J'ai jamais été mal fichue comme ça.
Vous voulez bien vous asseoir, qu'on prenne l'attention au calme, Fernand?
Je suis même pas habillée, je suis restée telle que je me suis levée ce matin, j'ai chaud avec ma robe. Je voulais pas vous appeler, puis je dis quand même. C'est un gros chiffon, ma personne.
On va commencer déjà par voir ça. Vous avez des ronds?
Oui.
Les renvois, ça brûle.
J'ai du mal à digérer.
Bon, on est comme d'habitude, hein, on est 14-7. Mmh. Donc ça va. On regarde l'autre, Fernande, s'il vous plaît.
Oui. Je suis habillée comme en plein hiver. J'ai dit, je penserai pour l'hiver si ça continue. C'est peut-être la tombée des feuilles.
Non, il n'y a pas le droit. Vous êtes la doyenne, vous devez rester jusqu'à 100 ans au moins.
Oh là, c'est bien loin, ça.
Non.
Bon,
non.
Cette étoile dit, ça fait encore 7 ans. Eh ben, avec ça.
Très 7, ça c'est bon. Par contre, c'est pas très très fort. Hein. C'est bien fait, tout ça. Ouais, vous respirez bien la bouche ouverte maintenant. C'est encore, c'est vraiment très très lent. Mmh, hein, par rapport à d'habitude, c'est vraiment... Puis ça souffle, alors là, plein pot. Non, ça va, ça passe. On a deux solutions, Fan. Le cardiologue, il a mis ce médicament-là pour ralentir l'activité de votre cœur, pour qu'il travaille lentement, mais mieux. D'accord? Mais apparemment, vous le supportez très très mal. En plus, avec l'anémie, ça ne doit vraiment pas aller du tout. On a deux solutions. Ou on l'arrête, ou on a une deuxième solution que je pense qu'il serait quand même un peu plus correcte, ce serait d'aller à l'hôpital.
D'aller à l'hôpital.
On remet du sang.
Ben, s'il faut, on va se résigner, hein.
Est-ce que je vous aide à préparer un sac?
Je suis bien le faire, moi. Qu'est-ce encore? Je cours à peu près. Vous allez m'envoyer?
À Vire, non?
À Vire. Bon, ben, on a déjà pensé pire, hein. Alors on pensera peut-être encore, si on pense pas, ben on dépensera. J'ai bien travaillé pendant plus de 50 ans dans mon commerce. Eh bien, j'étais mercière, depuis les pieds jusqu'à la tête, j'habillais les gens tout nus. J'avais une clientèle qui se plaisait avec moi parce que j'étais gay premièrement. Quand ils se consolaient à moi, je leur disais, ça va aller mieux demain, faut pas. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai quand même 93 ans. Je peux peut-être vivre encore un petit peu, mais si je peux plus, ben on donnera la place à d'autres. Hein. Depuis 1978, le 1er septembre que j'ai quitté mon commerce.
On appelle l'ambulancier?
Ben oui, faut bien qu'il m'emmène quelque part.
Allô?
Je peux m'en aller comme ça, je suis propre. J'ai une femme de ménage qui vient faire des carreaux. Autrement, je suis manger toute seule. Je prends du boudin.
Que trois, d'accord. Ouais, vous lui gardez un lit? Ouais. Faut qu'elle soit à l'hôpital de Vire, service de cardio, où elle est attendue. Oui, en allongé. Vous lui faites faire aucun effort. Ah, parce qu'elle est vraiment fatiguée, là, donc faut y aller doucement.
Ah, mais oui, je peux pas fournir d'efforts.
D'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est le monde transport.
Oui. Faire une petite maison là, c'était une cave qu'on a fait la maison.
Vous essayez pas de tomber comme les feuilles?
Hein?
Vous n'avez pas le droit de tomber comme les feuilles? Ne commencez pas. S'il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à vous rappeler. Hein,
oui, on va peut-être bien se maintenir jusque là, faut.
Oui, oui. Hein? Un hôpital?
Emmanuel.
Hein? Alors, est-ce qu'elle est belle, la vie, Fernande?
Oh, elle est belle quand même, faut pas en charrier.
Mes mères, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnocks. Mais ce qui fait penser tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guêpière à présent quand j'y pense? J'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille, tous les deux à la fois. Mes mères, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires, pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant, c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme j'étais, je ne savais pas quoi dire. Il y a des coups pour un peu, je t'aurais bien dit les verres. T'as bien changé, mes mères, mais quand je vois ta tirelire, comment que ça donne envie de faire la route à l'envers. Mes mères, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content. Je vois que t'as compris quand même, et je peux te le dire, mes mères, j'ai jamais aimé que toi.
Le plus dur d'affronter, c'est vraiment la mort, quoi. La mort. C'est parce qu'en fait, on est dans des civilisations où on voit plus jamais les morts. Nous, on y est confrontés dès la première année de médecine. Alors, vous rendez compte, vous avez quoi, 18 ans? On arrive dans des couloirs, et ça sent. Il y a l'odeur. C'est cette fichue odeur. La première personne décédée donc, que j'ai vue, qui était là sur une espèce de table en inox, alors, le côté froid, c'est immonde, quoi. Vous êtes face à un corps qui n'a pas de vif. Et vous voyez, là, ça fait maintenant, enfin, je ne sais pas, c'était en 85, j'ai encore l'odeur dans le nez, j'ai encore l'image dans la tête. Et quand on commence à évoquer les gens qui sont décédés, vous avez des visages qui arrivent, des situations. Vous avez vu dans ma voiture, j'ai des tas de pastilles à la menthe. Et c'est pour masquer cette odeur. Il y a 2 ans de cela, à peu près, on disait, on franchit le pont de l'Orne, on passe sur l'Orne. Juste après, il y a une maison où il y a une dame très âgée qui un vendredi soir a attendu que les pompiers passent, elle leur a acheté le calendrier. Et après, elle a été se mettre dans sa cave, elle a fermé le rideau, elle s'est mise dans un tout petit coin. Elle a fermé le rideau. Et elle s'est ouvert les veines du pied du coude, et l'artère en même temps. Elle a mis son bras bien au-dessus du seau pour pas salir. Vous vous rendez compte? Dans une solitude immense, toute seule, dans un tout petit coin. Et quand la dame était posée sur le thorax, il a fallu qu'on la retourne. Et à ce moment-là, l'odeur a été quelque chose de vraiment insupportable. Et j'ai dû sortir à toute vitesse dans la cour et j'ai été vomir. Et je ne savais plus où me mettre parce que la fille était là, vous vous rendez compte? Sa fille était là, elle attendait, elle n'avait pas le droit de rentrer parce qu'on faisait l'enquête et tout. Et moi, j'étais là en train de vomir et j'arrêtais pas de dire « je m'excuse ». Et l'odeur, quand j'ai été réquisitionnée, ça a duré plus d'une heure, la salle d'attente était pleine. Et vous retournez dans une salle d'attente où il y a plein d'enfants, il y a plein de gens qui attendent qu'on leur rhume, qu'on leur problème, leurs potes. Et dans votre nez, il y a cette odeur. Malheureusement, les grands-mères, c'est hyper fréquent. Hein. J'en ai plein là qui sont suicidés. Hein. Il y en a une, elle a laissé le dossier de la maison de retraite sur la table, que les enfants avaient gentiment demandé, et elle a été au fond de la mare en plein hiver. Et quand il y en a un à qui ça arrive, avec qui vous avez un peu plus de relations, effectivement on a été faire le tour du potager, ou on a été voir l'élevage de poules, ou je sais pas quoi, le soir même ça va à peu près, je m'écroule en fait, je dors et je m'écroule, c'est la nuit d'après que je dors plus, où je repense à tous les autres. Et moi, j'ai fait des accompagnements à l'hôpital. Ben, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas tout seul. À l'hôpital, on va voir les infirmières, on en parle ensemble. Ou avant de rentrer dans une chambre, on souffle, on rigole un coup. Et puis voilà, on se prépare. Ben, là, vous êtes dans votre voiture, vous êtes tout seul. Et puis, il y a des tonnes de sociétés qui fonctionnent sur le don et le contre-don. D'accord? Et je crois qu'en médecine, il faut arriver à donner point, terminé. Il n'y a pas de contre-don. Faut pas oublier que ça on le fait pour soi et pas pour les autres. C'est pour soi. C'est le don, point. Sans contre-don. Gratification, c'est que... qu'ils sentent bien. Moi, je suis contente de ma journée. Un éclair dans l'œil avec un sourire, avec un merci. Voilà, ben, ça suffit.
Par petits bouts, le vit en vie, dans son auto avec l'essuie-glace et la radio, et sa petite sacoche de docteur, et sur les petites routes de campagne, avec le téléphone qui sonne entre deux vies, l'une qui flanche, l'autre qui débarque, les nouveaux berceaux, les vieux rideaux, et entre les deux, il y a les bas, il y a les hauts, il y a une grossesse de travers, il y a un nénuphar dans un poumon, il y a un estomac qui se dévisse, il y a un infarctus dans le siphon, il y a un crabe planqué sous une casquette, il y a les dents du fond qui baignent, il y a le corps fendu, il y a la tête perdue, parce que le corps parle, le langage maldit de la maladie. La maladie dit, elle en dit long. On dit, c'est la vie qui s'accomplit, faut que ça se fasse, faut que ça passe, oui. Mais il y a aussi, elle nous l'a écrit, la pesanteur de la solitude, les silences, encore et encore, qui attendent une réponse à une demande pas toujours formulée. Alors il faut aller la chercher. Qui a écrit ça ? Une médecin, vous l'avez entendu, elle s'appelle Emmanuelle. Elle est médecin à Saint-Rémy-sur-Orne. Oui, c'est en Normandie, dans la belle Suisse normande, comme on dit, mais c'est aussi une région avec une mémoire ouvrière, minière. Il y a des choses qui se sont passées ici et qui se retrouvent dans les corps. Dans chaque corps, il y a cette mémoire sociale. Et il y a des silences, il y a des moments où la science ne sert à rien, car, dit Emmanuel, il y a le vécu, il y a des témoignages, des histoires de cul, de fric, de voisinage, de jalousie, les secrets de famille, et tout ça défile et se déroule à longueur de journée, de longues journée et elle se relève la nuit. Et puis il y a l'obligation que tout ça soit parfait et ça lui plaît. Et c'est sa vie. Et elle nous l'a écrit et on est allé la voir avec Claire Auter pour qu'elle nous raconte un peu tout ça, mais pas seulement sa vie à elle, celle des autres qui, pour elle, ne lui doivent rien. Il y a don et contre-don, et contre son don, sourire suffit.
Allez hop. Il y a un appel pour un jeune homme. Il y a eu un trauma au foot.
Oh, c'était à l'entraînement. On met un coup de tête dans le ballon, on a tapé à deux, puis ça a tapé les têtes. Tête contre tête, ça a fait.
Tu t'allonges parce qu'on va faire des points.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Pompier professionnel. Bah, j'ai commencé en volontaire, j'ai commencé des formations, puis là j'attends à avoir un concours pro pour pouvoir le passer, puis après avoir une place. C'est depuis tout petit quoi, c'est bon, le camion rouge, tout ça. C'est comme ça. Ah oui.
T'es prêt ?
Mmh.
Je peux le faire. D'accord ?
Ouais.
Alors là, je vais lui laisser les cheveux parce que la plaie, elle est pas trop... Hein ?
Ouais.
Donc ça, c'est les instruments pour faire les sutures, le clan. On coince le fil, comme ça. Ouais. Tu essayes de pas bouger, je fasse ça, quoi.
Ouais.
T'as pas le droit de crier. Si t'es gentil, t'as un bonbon.
Ouais, ça va aller.
Tu veux un carambar ? Je donne les carambars aux enfants.
Ouais, j'ai pas mangé encore.
T'as pas mangé non ? Bah nous, on commence à se réchauffer, la soupe commence à sentir bon. Respire bien. Ça va ?
Oui.
Ça va toujours ?
Oui.
Voilà. Ok, c'est passé. Ça va, hein ?
Oui.
Le crâne, comme ça, ça fait pas trop trop mal. C'est ni plus ni moins de la couture. Il y a un fil qui se prend dans les cheveux, j'ai un mal de chien, voilà. Guillaume, je sais qu'il va rien dire et qu'il est fort. Et je t'ai pas coupé un seul cheveu.
Merci.
On fait la petite fille. Tu reviens dans 6 jours ?
Ouais.
Je t'enlève le poing ?
Mmh. Ouais.
C'est pas toi, t'es la noix dans les pommes.
Ouais.
Trauma de foot, c'est pas rigolo. Faut que t'inventes une histoire bien plus belle que ça.
Ouais.
Hein, je sais pas. Trop fort. Donc tu vas voir, ça saignote encore pas mal. C'est bon, la tête te tourne pas ?
Non, ça va.
Ah non, bah tu plais. On va nettoyer, désinfecter ça tout de suite. Moi, je suis toute seule dans mon village. J'ai un village à 6 km d'un côté et un autre village à 6 km de l'autre côté. Sur les deux villages qui m'encadrent, il y a plein de médecins au repos. Donc dans ce secteur, aujourd'hui, je suis toute seule. Donc cette nuit, je suis toute seule. Donc effectivement, s'il se passe quoi que ce soit, là, c'est clair, c'est moi qui vais y aller, quoi. Et on rayonne à peu près chacun, tous, sur 15 km.
On se demande parfois comment fait le médecin, le chirurgien, enfin, tous ces métiers, l'infirmière, tous ces métiers qui ont rapport avec le corps, avec le corps pas toujours en bon état, avec la vie qui parfois se débine, s'en va. Est-ce que vraiment, comment on fait pour arriver à neutraliser sa sensibilité? Ça a toujours été pour moi une énigme. C'est pas les seuls métiers, bien sûr. Le nôtre, par exemple, journaliste, il arrive qu'on soit amené à ça aussi. Et puis, il y a plein d'autres métiers, si on y pense de proche en proche, comme ça. Comment on fait pour neutraliser? Est-ce que vraiment on arrive à être aussi indifférent qu'il faudrait l'être pour faire bien son métier? C'est une énigme qui est dans le... que je crois Emmanuel ce médecin, cette jeune femme médecin, elle a 36 ans, je crois, avec deux enfants, dévoile un peu dans ce reportage.
Allez-vous prendre un café?
Ah bah tiens, ouais.
Asseyez-vous.
Je vais chercher le café, Pierre.
Ben, tant qu'il se fasse, ma petite.
Pierre avait souvent des douleurs, d'angine de poitrine, et je lui ai dit qu'un jour, ça finirait mal. Et puis un jour, on l'a retrouvé en ayant fait un malaise ici, par terre. On a appelé les pompiers, et tous les pompiers étaient complètement paniqués parce que Pierre est un ancien pompier. Et tous les pompiers m'ont dit, s'il lui arrive quelque chose, t'es mal.
Tant de jours, je vais avoir 91. Faut le faire, hein.
Vous m'aviez dit, si je meurs, mon gars, t'inquiète pas, je ferai pas de réclamation. Oui. Et si ça se suicide, d'un pontage, un trip.
Ah, bah, que j'ai dit, y a pas de danger, puisque les docteurs veulent bien.
Oui, et on l'a fait.
Oui, mais j'avais une morale, c'est ça qui m'a sauvé.
Il a toujours une morale.
Oui. J'ai démarré dans la culture à 11 ans et demi. Oui, enfin, un petit comique, petit employé, quoi. De 11 ans et demi à la ferme, jusqu'à 16 ans. Je faisais 35 heures dans deux jours. J'avais trois vaches à traire, les lapins, le cheval à soigner, les veaux, les poules, tout le bazar, puis enlever le fumier, tout le Bataclan, nettoyer tout ça. Puis j'ai trouvé une place, un petit apprenti charcutier, là, à Saint-Rémy. Puis après, j'ai travaillé chez plusieurs patrons, bien entendu. Puis je me suis marié en 36. Et puis on a acheté le fond, là, à Saint-Rémy. Le fond de charcuterie, quoi. On s'est installé là. De 36 à 71. Oui. Et puis là, je suis à la retraite depuis 71. Oui, voilà, la vie. Je pensais à ma petite Madeleine, je dis, on va se trouver séparés sans se revoir.
Ouais, l'autre fois, vous me disiez ça, vous aviez très très peur, parce que Madeleine est en maison de retraite. Mmh.
Votre femme.
Oui. Ouais, on a été obligés, hein. Ça nous a déchiré le cœur, mais on a été obligés de le faire.
Mais je ne pouvais plus m'en occuper non plus, Il y a eu 2 ans le 1er juin qu'il y est.
Et là, c'était la première fois que vous vous sépariez pour la mettre en maison de retraite?
Ah, toujours, oui, sauf la captivité. Pendant 4 ans, là, quoi. Hein.
La captivité en Allemagne?
Oui. Hein.
Elles sont où les tasses, Pierre?
Elles sont dans l'eau du placard, là-dessus. Et le calva est en dessous. Ben pendant la guerre, on était fait prisonniers, on était enfermés dans un camp, comme des bestiaux sur la foire. Et puis les Allemands, ils nous choisissent, toi, tu viens par là, tu peux par là. On était 10, et on a tombé dans une ferme d'État. Le patron, c'est un nazi fini, hein. Je me privais de nourriture qu'on n'avait pas beaucoup, pour ceux qui étaient plus jeunes que moi, que je disais, ils souffraient davantage. Jamais je pensais à y mourir, jamais. J'ai jamais resté sous la paillasse. Il n'y avait presque rien à manger, quoi. D'abord, il faisait moins 25. Il y avait de la neige haute, comme ça, à Radaruszka, là, en Pologne, là. Sur 40 mois de captivité, j'ai 36 mois de prison de compagnie disciplinaire et tout ce qui s'ensuit. Oui. Il y a des jeunes qui avaient 20 ans à peine, là. Ils sont tous morts là-bas, hein. Ça me faisait 28 ans, j'étais déjà plus résistant. Prenez votre petit café, dites. Mets-vous un petit gâteau.
Merci.
Ah oui, j'étais résistant.
Vous avez quel âge, là?
91, le 28 novembre. Quand ça va bien, mais quand ça va pas, hein.
Je remets tout ça dans la cuisine, hein. D'accord?
Je vais me débrouiller.
Oh.
Avez-vous pris un petit chocolat?
Oui.
Pour la route.
Oui, ça y est, il est là.
Bon, ben,
ça y est, mon petit Pierre, merci beaucoup.
Merci, hein.
Ouais, à bientôt.
Bien, hein? Excusez-moi, je ne vais pas très aussi copieusement, hein. Je
vous laisse, faut que j'aille travailler,
oui,
là.
Bon, allez, à bientôt.
Au départ, la vocation de médecin, c'était parce que j'aimais les gens. J'avais envie de connaître les gens, j'avais envie de découvrir les gens. Puis c'est aussi un moyen d'arriver dans sa vie à faire des choses dont on est content. Ce spécialiste, ça, on n'a pas le temps. On ne fait pas ça. Et je pense que c'est à cause de mon médecin traitant, quand j'étais petite. Si la personne
après le professeur que je suis allée voir pour lui dire que j'avais eu mon concours, j'étais hyper fière. Malheureusement, on n'a pas pu en profiter longtemps parce que elle s'est fait assassiner par un patient à la sortie de son cabinet. Et quand j'ai eu ma thèse, je suis dédiée à lui. Et c'est quelqu'un à qui je pense souvent parce que c'était un médecin, quand on allait le voir, on disait il a combien de retard. Et il en avait, mais il se moquait complètement. Si quelqu'un était mal, qu'il devait rester 2 heures à parler avec lui, C'est vrai qu'il me manque des fois. Les gens, souvent, enfin, ils viennent pour plein de choses. Et c'est plein de pathologies. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est venir discuter.
Je repense à l'auditrice tout à l'heure dans un message qui disait tu devrais nous raconter des histoires un petit peu plus gaies parce que c'est vraiment tout ça est bien triste, raconte-nous des histoires gaies. Moi je trouve pas que ce qu'on entend là soit triste, ce que raconte Emmanuelle, évidemment elle fait un boulot dur, elle fait un boulot intense, mais elle a aussi quand même des gratifications, et on les cherche tous au fond, ces gratifications. Enfin, je veux dire par là qu'on a tous envie d'être le mieux possible, d'être des gens le mieux possible. Si jamais il nous arrive d'être dans l'impossibilité d'être le mieux possible, après tout, il y a des moments comme ça de la vie où c'est difficile. Et ben, elle nous regonfle, je trouve. Elle nous donne envie. Ce médecin qui qu'est-ce que c'est qu'un médecin? C'est quelqu'un qui veut arracher quelque chose à la mort. C'est bien clair. Donc, nous remettre en vie. Et elle arrive aussi, Emmanuelle, là, à travers ses mots, à nous donner envie aussi.
J'ai surtout été ouvrière d'usine toute ma vie, une partie de ma vie, pratiquement le plus gros de ma carrière a été une usine de pansements. À Saint-Rémy, j'ai fait 42 ans dans une usine de pansements, dans la poussière, dans le bruit, oui. C'est pour rester avec maman que je me suis pas mariée parce que je voulais pas la laisser toute seule. Je voulais pas qu'elle finisse sa vie toute seule et s'est sacrifiée pour nous, toute sa vie pour rester avec nous, pour nous élever. On était 4, mais papa s'occupait pas beaucoup de nous, papa avait des problèmes de santé. Donc il nous laissait beaucoup, et maman s'est sacrifiée beaucoup pour nous, donc j'ai voulu rester avec elle. Elle disait quelquefois, oui, tout le monde va, vous allez tous vous marier, je me retrouverai tout seul. J'ai dit non. Je lui ai dit, je resterai avec toi, et je suis restée avec elle. Elle venait de prendre 98 ans.
Vous avez quel âge, vous?
Je vais sur 66.
Mais vous voyez, elle s'occupait toute seule à 66 ans de sa maman.
Ça a été dur.
Qui était très lourde.
Non, maman était
pas... toute seule, ça faisait lourd.
Ça faisait lourd quand on a mal au dos.
Quand on a mal au dos,
ça fait
lourd. On faisait des visites pour la lever, l'aider, la mettre aux toilettes, etc.
C'est là où j'ai pas compris le gouvernement. Parce que moi, je pense qu'avec tous les gens qui sont au chômage, je pense que si on les paye 8 jours, par exemple, par mois, on pourrait les diriger vers des gens comme moi j'étais. Supposons 10 minutes pendant midi, 10 minutes dans l'après-midi, pour m'aider à la mettre sur le seau, c'est tout ce qu'elle demandait. Ben, ça aurait pas été pareil, elle serait encore là.
Ce serait peut-être mieux que de supprimer un férié, c'est ça que vous êtes
en train de... Ben, ça, je suis pas pour non plus. Hein, parce que je pense aux gens qui travaillent. Puis bon, ben, moi, je suis comme je suis. Katienne, jour férié, je trouve que c'est idiot de le retirer. De toute façon, ça fera comme la vignette. Au début, ça sera pour les gens, et après, ça sera pour le gouvernement. Bon. Ben, maintenant, je me fais suer parce que je suis toute seule. Avec mes chats. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur parce que ça rend dépressif. Quand on met le couvert, bon, quelquefois, je mets son couvert quand même. Quand je me mets à table, je prends sa cuillère et ma fourchette parce qu'on avait nos couverts personnels. Je prends son rond de serviette et le mien ensemble. Comme ça, elle est toujours un petit peu avec moi. Je prends son bol au lieu de prendre le mien. Et pour qu'elle soit toujours un peu avec moi. Oui, elle est pas loin. Parce que moi, je la sens dans la maison. Elle a sa photo au-dessus de moi et je la sens pas là-haut. Je monte des fleurs au cimetière. Hein. Je sais qu'elle, son corps est là, mais je la sens pas là-haut. Je la sens dans la maison, avec moi. Quand je fais quelque chose, je demande à maman si elle est d'accord, pas d'accord. Si je sens qu'elle est pas d'accord, j'ai l'impression qu'elle est pas d'accord, je fais autre chose. Ah oui, carrément. Je lui demande son avis, comme si elle était là. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle en pense. Moi, je me sens pas seule dans la maison, de toute façon. Alors, pour moi, personnellement, je sens des réponses. Un matin, j'ai vu passer papa devant ma fenêtre. Et papa vieillit. Mais papa quand même. Et j'ai bondi à la fenêtre. Je suis folle. Je suis au premier étage. Papa n'a pas pu passer devant la fenêtre. J'ai quand même été regarder dehors. Il n'y avait personne. Papa avait quitté la maison en 1958 après une crise de folie où il avait tout saccagé. À partir de ce jour-là, on ne l'a plus jamais revu. J'ai essayé de le retrouver de temps en temps. Quand il savait qu'on avait retrouvé sa trace, il redisparaissait. Donc, 20 ans après, j'ai eu cette vision devant la fenêtre de papa qui passait. J'ai pris mon calepin et j'ai marqué, il est 10h05, quelque chose comme ça, papa est décédé aujourd'hui. Et puis j'ai continué à le chercher quand même. Et je l'ai retrouvé 3 ans plus tard, j'ai enfin retrouvé sa trace pour qu'on m'annonce que papa était décédé 3 ans plus tôt, le jour précis où j'avais marqué où c'est arrivé. Voilà. Et à l'heure précise où il était passé. Donc je me dis, il y a quelque chose quand même. Et il y a des fois, il y a des gens qui disparaissent, je vois quelque chose dans le ciel. C'est bizarre, on peut s'expliquer. Maman aussi était médium. Maman voyait beaucoup de choses aussi. On se pose des questions quand on voit des trucs, on dit, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus?
Ça, c'est pour gratter l'œil. Les corps étrangers dans l'œil.
Vous voyez, en médecine généraliste, on fait les soins, les brûlures, les sutures.
À la campagne, on fait un peu tout ça, surtout l'été. Donc là, c'est tout mon plateau pour travailler. Tous mes produits désinfectants. La laque, pourquoi de la laque? Parce que je fais des frottis. Mais Yves, vous êtes venue pour faire le vaccin aujourd'hui?
Eh bien non, je suis venue parce que j'ai mal à la gorge.
Bien, vous êtes, de toute façon, on ne peut pas faire le vaccin aujourd'hui?
Non.
Puisque vous avez mal à la gorge.
Voilà, non plus j'ai plus envie de le faire, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit que je sais pas, cette année, il ne faut pas que je le fasse.
Bon, voilà. Bah, donc façon, cette année, c'est votre décision.
Je ne le ferai pas cette année. Quelqu'un d'autre va en profiter à ma place, puisque je l'ai là quand même.
Vous l'avez amené quand même?
Bah oui, je vais en faire, autant que quelqu'un en profite, on peut se mettre à la poubelle.
Voilà. Il fait un bruit d'enfer. On va le mettre dans le frigidaire. Voilà. Et puis, bah, c'est gentil, je vais l'offrir effectivement à quelqu'un qui souhaite pas.
Non, hier j'étais décidée, mais là j'ai trop mal à la gorge, j'ai été mal fichue cette nuit, j'ai toussé.
Ouf. Oui.
J'ai plus de
c'est bien vrai.
J'ai pas pris.
Alors. Donc là, on regarde après la gorge, on cherche les ganglions. Donc, la gorge est rouge écarlate, ce qui signifie que probablement il y a un streptocoque.
Allons bon, avec
que quand il y a un streptocoque,
je fais de l'élevage maintenant.
On soigne avec les antibiotiques.
Ah bon, je croyais qu'il fallait pas d'antibiotiques.
Bah pas à chaque fois. Bien. C'est plutôt microbien cette histoire.
Bien, la autre chose.
Vous enlevez la veste. Treize sept.
Allez ça, je me confie maintenant.
C'est bien, hein?
Oui.
Tap. Comment il est? Quand tout sera ça. Respirez bien. Par la bouche, s'il vous plaît. Respirez bien, la bouche ouverte. Oui. Très bien. Toussez. C'est bien. Ça va.
Voilà, que je donne
Alors, vous redonnez le papier au pharmacien afin d'être prise en charge. D'accord? La signature. Et on est le 30 octobre. Voilà, c'est fait. Moi, je mets du paracétamol. Hein, c'est du doliprane ou de l'efferalgan. D'accord? Celui-là, c'est pour dégonfler la gorge et faire en sorte que ce soit moins irrité. Donc surtout, vous le prenez bien en fin de repas, parce que vous allez avoir mal à l'estomac.
J'en ai quand trois comprimés.
Je vous mets une boîte de 28 pour que vous en ayez suffisamment. Oui. D'accord. Vous n'êtes pas allergique à la pénicilline?
Jusqu'à preuve du contraire, non.
D'accord. Je préfère toujours redemander les allergies.
Peut-être que je vous paye quand même.
Ah ouais, quand même. Parce que vous voyez bien mon dossier, ça ne va pas la faire.
Vous voyez les pastilles pour sucer pour la gorge?
Oui. On va mettre celle-là. D'accord?
D'accord. Mais bon, j'ai plus mal à la gorge, le restant, je m'en fiche. Qu'est-ce que je vous dois?
Mais ce qui marche bien, c'est le miel aussi.
Ah, bah ça, le miel, j'en prends. Hein. Je suis une adepte du miel.
Et la gelée royale.
Non, j'en prends pas en ce moment, c'est trop cher, j'ai plus les moyens.
Ah bon?
Oh, bah ben non, avec 3000 balles par mois, je suis obligée de faire des économies. Mais combien aujourd'hui?
1030.
Oh, déjà.
Comment ça se fait, vous avez une si petite retraite, et vous?
Ben, c'est la retraite du SMIC, j'ai toujours été au SMIC. 525 euros par mois, comme tout le monde. Faut faire avec. Faut bien s'acheter le charbon, faut bien s'acheter tout ça, puis après, il n'y a plus grand-chose, heureusement, j'ai le jardin. Non, ça y est, l'État, il fait pas beaucoup d'efforts pour les gens qui ont beaucoup travaillé pour eux. Il faut bien suspendre nos impôts, quand même.
Ouais.
Bon, enfin, je suis pas seule dans ce cas-là. Hein.
Ah non, mais bien sûr, j'ai 25 euros, c'est quand même pas beaucoup pour vivre.
Donc, on est obligé de calculer juste. C'est la vie, faut faire avec. Allez.
À bientôt.
À bientôt.
Portez-vous mieux.
J'espère. J'espère pas venir vous voir trop souvent quand même.
Si ça fait comme l'hiver dernier, c'est le
temps. Pour votre maison. Hein.
Je sais bien, vous
pourrez pas. Vous en avez aussi.
S'il suffisait de partir comme un voleur à la tire, rejoindre là-bas les troupeaux de regrets, s'il suffisait de s'offrir au premier volcan venu, et s'aimer, est-ce une escale en mer Égée? Est-ce un essaim d'abeilles au réveil? S'il suffisait d'orner la douleur d'une plage de silence, j'ai pas suffi. Là où la rouille n'a que faire de la mélancolie. S'il suffisait d'abolir les écorchures, la peine qu'on se donne pour finir une à une, triomphe les ruines. Si tu trembleras sous la canicule, parents saurieux n'en savent rien. Les aînés, les aînés,
combien de patients aujourd'hui, docteur?
26. C'est une petite journée.
Quand même, on a commencé à quelle heure?
8h du matin. Il est 8h du soir. Donc là, je suis de garde pour tout le secteur jusqu'à demain soir. Une semaine sur deux, je commence le jeudi à 8h et je finis le samedi à midi. On va fermer la porte.
À clé.
Merci à
Emmanuel, la doctoresse, comme on dit, Emmanuel. Merci aussi à son mari, Olivier. Merci à Michel et Léon. Merci à Jacqueline. Merci à Yvette. Merci à Nadine. Merci à Pierre, à Guillaume et aux autres. Et puis merci aussi à Fernande. Parce qu'entre cet enregistrement et puis aujourd'hui, ben voilà, Fernande est partie. Elle est décédée. Elle est partie comme les feuilles. Il en était question dans ce reportage. Voilà, c'est la vie. Et cette heure lui était évidemment dédiée. Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Alain Darrigade. C'était un reportage de Claire Otter. Assistant, Édouard Rex. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui en a la charge. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Assistant musique, Coy Nguyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Alors, demain, vous le savez sans doute, tout France Inter sera à Strasbourg. C'est la journée France Inter à Strasbourg. Et nous aussi, là-bas, si j'y suis, on y sera aussi. Et on sera à l'auditorium de France 3 Alsace. C'est place de Bordeaux à Strasbourg. Alors, il faut venir dans le hall de l'auditorium à partir de 16h30. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'abord, il y aura la chorale des intermittents, notre chorale de nos intermittents, qui interprétera pour vous, en public pour la première fois, leur grande création mondiale qui s'appelle Raffarin, nous voilà. Alors pour revenir écouter ça, pour venir assister à cette grande première publique, le béret est conseillé. Si vous pouvez trouver un béret, ça mettra un peu plus d'ambiance. Ils nous interpréteront également des morceaux comme l'hymne à la noix, puisque il s'agit de l'Europe. On va beaucoup parler d'Europe. Alors il n'y aura pas que ces rigolades là. Il y aura aussi Christian de Montlibert, qui est sociologue et qui enseigne à Strasbourg. Il y aura Jérôme Champion, qui est un membre de No Borders. C'est un mouvement un peu altermondialiste. No Borders, bon, l'Europe, voilà, frontière ou pas frontière. Julien Bossert, qui est membre du réseau intergalactique. Il y aura Hans Georg, qui est membre d'un mouvement de chômeurs en Suisse. Et oui, ça existe aussi en Suisse. Il y aura Francis Kern, qui est économiste et responsable local d'Attaque. Il y aura Roger Siffert, on ne peut pas faire autrement que de recevoir l'ami Roger Siffert, qui tient le restaurant Cabaret, que vous connaissez bien, ami de Strasbourg et du monde entier, la choucrouterie. Il y aura François Stulkins, qui est juge à la Communauté européenne des droits de l'homme. On va essayer de savoir à quoi sert cette cour européenne des droits de l'homme. La discussion que j'ai eue avec elle en préparation est tout à fait passionnante. Et puis on aura aussi Roger Winterhalter, qui est connu dans tout le coin. Il est de Lutterbach, il est responsable de la Maison de la Citoyenneté Mondiale dans son patelin. Voilà, on va parler beaucoup d'Europe, on va parler d'Alsace, et on va parler, et puis on sera bien tous ensemble demain. Donc, je le répète, 17 à 18h, place de Bordeaux à l'auditorium de France 3, Alsace, réclame.